Le 7-9.
Et à 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est directeur d'AM Conseil et essayiste.
Bonjour Alain Minc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors je vous avoue qu'on vous attendait à peu près partout, sauf en admirateur de Marx. C'est pourtant de lui dont vous parlez dans la nouvelle collection lancée par Gallimard, Ma vie avec. Il y a eu Ma vie avec Apollinaire de François Sturot. Et voici donc Ma vie avec Marx d'Alain Minc. Et vous écrivez avec un sourire, j'espère, Alain Minc, « Je suis le dernier marxiste français ». Est-ce une plaisanterie? Est-ce une provocation? Ne confondez-vous pas être lecteur de Marx et être marxiste?
Mais pas du tout. Ça fait des années que je dis que je suis le dernier marxiste français. Et dans le monde capitaliste auquel j'appartiens, je ne suis pas le seul. The Economist, qui est la Bible du monde capitaliste, a fait un jour une couverture. Quand revient Marx? Pourquoi? Marx est l'esprit qui a le mieux pensé l'économie de marché, sa puissance, le progrès, l'essor de la bourgeoisie et les limites, évidemment, la machine qui fabrique des inégalités. Puis Marx, il y a deux Marx. Il y a le Marx qui prend la voie communiste, enfin l'héritage, bon, avec les conséquences qu'on connaît. Puis il y a un autre Marx qui est absolument triomphant, qui est le père de la social-démocratie. Or, le quoi qu'il en coûte, c'est quoi sauf l'apogée de la social-démocratie?
Mais justement, ça c'est votre grande thèse, c'est qu'en fait, il ne faut pas retenir que le père du communisme, mais qu'il serait ou qu'il aurait été le père de la social-démocratie, Marx, n'est-ce pas? Tordre l'histoire, tordre les choses à votre profit, hein, Alain Minc, la social-démocratie, c'est quand même l'abandon de l'horizon révolutionnaire.
Mais je ne veux pas vous amener à lire les philosophes du 19e siècle, je ne voudrais pas vous imposer cette punition, mais il y a eu en Allemagne un débat dans l'héritage marxiste et la branche léniniste a pris temporairement le dessus. N'oubliez pas que le parti qui va peut-être gagner les élections allemandes, qui est le SPD, en réalité abandonne pour des raisons politiques en 59 la filiation marxiste, les nationalisations, etc., mais non pas l'esprit. Voilà, donc je trouve que, en plus, surtout au-delà de ça, je ne connais aucun personnage de l'histoire qui a pensé simultanément l'histoire, la philosophie, l'économie et la société. C'est hallucinant, et donc coup de chapeau à l'exercice intellectuel.
Oui, mais vous écrivez aussi « Plus la vie me faisait pénétrer les arcanes du monde capitaliste, plus Marx m'apparaissait unique, le seul à avoir compris, vous le dites, le seul à avoir compris, décrit encensé un système dans lequel l'économie de marché et les mouvements profonds de la société sont indissolublement liés. Marx qui encenserait le capitalisme, n'est-ce pas là aussi une lecture légèrement hétérodoxe des choses? Lui qui appelait, enfin, pardon, vous nous en faites un social-démocrate bon teint et suédois, mais il appelait quand même à la dictature du prolétariat, grâce à la lutte des classes, au renversement de la bourgeoisie. Il a été, je vous le rappelle, un des membres dirigeants de la Première Internationale des Travailleurs.
Le dirigeant, connaissez vos classiques, il n'y a aucun doute.
Qui avait une visée révolutionnaire, et vous nous en faites un dirigeant suédois.
Il considérait qu'il y aurait une évolution de l'histoire, mais que l'apogée du capitalisme était une immense réussite. Et c'est la vérité. Et je pense que tous les militants très engagés devraient relire les pages du manifeste communiste. D'abord, ils comprendront l'intelligence de leur adversaire qu'est le capitalisme, plutôt que d'être dans des fantasmes ou des illusions. Voilà, après, il y a un débat qui est très clair et qui est un débat d'actualité. Pourquoi, de mon dernier chapitre, je dis Karl revient? Pas pour la version marxiste, mais parce qu'il a pensé un monde à inégalité croissante. La réalité est la suivante. Le capitalisme, c'est une machine qui fabrique de l'efficacité et de l'inégalité. Quand il tourne à pleine vitesse, il fabrique énormément d'efficacité et énormément d'inégalité. Quand, comme aujourd'hui, on est dans un univers de taux zéro, les inégalités ne peuvent que s'accroître. Et donc, d'une certaine façon, il n'y a pas aujourd'hui la réponse prolétarienne, Dieu merci, surtout quand on entend ce qui se passe en Chine, soi-disant communiste, mais il y a un débat sur les inégalités qui va aller crescendo. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui va se passer? Le vrai problème, à mon avis, c'est que le jeu social est déséquilibré. Normalement, le jeu social, c'est l'État, le patronat, les syndicats. Il n'y a plus de syndicats. Et donc, aujourd'hui...
C'est ça le drame aujourd'hui, il faudrait des grands syndicats forts.
Évidemment, ce qui fait que c'est l'État qui est obligé de se substituer à la faiblesse syndicale, par exemple, pour donner des droits élémentaires aux travailleurs d'Uber. Il se passe aujourd'hui avec les travailleurs d'Uber ce qui s'est passé avec Bismarck. Qui a donné les premiers droits sociaux en Allemagne et dans le monde occidental? Bismarck, le chancelier de fer. pas sous la pression syndicale. Aujourd'hui, un travailleur d'Uber ne peut pas compter sur une centrale syndicale pour le défendre. Il n'existe plus.
Ça commence
donc,
très légèrement à se
avec un petit bout de manif. Je ne sais plus où. Non, c'est pas le sujet. Donc, on est dans un système déséquilibré. D'une certaine manière, on arrive à un point où la classe dirigeante, l'État, le patronat, octroie le progrès social comme Louis XVIII octroyait la charte.
Sur les inégalités, c'est intéressant parce que vous expliquez dans le livre que les crises économiques, comme celles qu'on vient de connaître avec le Covid, ne sont pas des signes de faiblesse du système capitaliste, mais au contraire qu'elles le renforcent et qu'elles accélèrent les grands changements et les progrès. Vous parlez notamment du télétravail. Mais c'est là où je voudrais vous interroger. Vous dites que le bénéfice, la conséquence positive de cette épidémie, c'est que ça a accéléré la libération du travail. Mais c'est ça que vous notez. Mais tout de même, la conséquence la plus directe de cette épidémie, c'est qu'elle a enrichi les plus riches et qu'elle a appauvri les plus pauvres. Elle a accru les inégalités entre les hommes et les femmes. On a vu que c'est les femmes qui souffraient beaucoup plus. Et quand vous voyez, que les 40 entreprises les plus riches de France, le CAC 40, a réalisé 60 milliards de profits au premier semestre cette année, c'est-à-dire 40% de plus qu'avant la crise du Covid, est-ce que vous jugez que c'est sain et normal ?
Dites une chose qui me paraît plus importante. Ce que vous dites est exact. La chose la plus importante, c'est que jamais dans l'histoire récente, les gouvernements et les banques centrales, partout, n'ont aussi bien fait. Que si en 1930, il y avait eu la même intelligence politique des banques centrales et des gouvernements, il n'y aurait pas eu probablement Hitler et la Deuxième Guerre mondiale. Et je trouve que quand on est face à la situation actuelle, où on passe son temps à dire on est mal gouverné, je ne parle pas de la France, je parle de manière générale, je trouve que le coup de chapeau est absolument extraordinaire. Deuxième élément, avant qu'on vienne aux inégalités.
Allez-y.
On entre dans la crise du Covid à 8% de chômage et tout le monde pense chômage. On sort de la crise du Covid à 8% de chômage et on se dit il n'y a plus de chômage, il y a que des pénuries de main-d'œuvre. Donc il s'est passé une adaptation extraordinaire. Après, les inégalités, ça se corrige à la marge. Moi, ça ne me pose pas de problème qu'on augmente les impôts. Pas dans la mesure Piketty. Piketty, c'est très intéressant. Il a raison dans son diagnostic, mais il pense qu'on peut, dans la société d'aujourd'hui, mettre une fiscalité à 90% parce qu'on l'a mise en 45. En 45, on reconstruisait en réalité l'Occident. Donc, le sujet des inégalités est sur la table.
Entre 90% et vous qui voulez une taxation sur le capital de 0,2%.
Mais attendez, on parle... Vous allez confondre la taxation sur le capital et la taxation sur le revenu. Là, vous me faites un numéro militant. Pardon, c'est pas du tout. Non, c'est pas du tout de même nature. Je n'ai jamais été pour un impôt sur le revenu de 1%. Bon. Et je pense que vous n'êtes pas pour un impôt sur le capital de 90%. Donc, la réalité du monde, elle est quelque part entre nos deux propos.
Alain Minc, je voulais aussi vous faire parler pas que de Marx, mais de ce début de campagne présidentielle. Quel regard vous portez dessus avec la multiplication des candidatures à droite et à gauche, avec l'arrivée du perturbateur Zemmour. Vous avez d'ailleurs écrit dans le Figaro magazine « Zemmour ou le refus de la complexité française », c'était votre réponse à Zemmour, qui impose quand même ces thèmes de campagne clivants, retour de la peine de mort, interdiction des prénoms étrangers. Tout cela contribue-t-il à offrir à Emmanuel Macron une victoire assurée ?
Non, je pense qu'on va vers une élection très serrée. Pourquoi ? Emmanuel Macron a 40% de popularité, c'est beaucoup. Et c'est au fond une reconnaissance de la bonne gestion de la crise. Quand on a 40% de popularité, normalement on doit avoir 30-32% d'intention de vote. Il en a 23. C'est un vrai débat politique, les 40 c'est 23 et les 30-32. Donc c'est un problème d'ajustement dans sa relation au pays.
Comment vous l'expliquez cela ? Qu'effectivement, le sondage de popularité il est très haut et sur les intentions de vote,
oui,
il est à 23.
Je pense qu'il a un problème d'image avec une partie du pays. Et de ce point de vue, je trouve que c'est injuste parce qu'il a bien géré cette crise. À partir de ce moment-là, en plus, un candidat en fonction n'augmente pas tellement son réservoir de voix. Et c'est plutôt un réservoir qui va se vider un tout petit peu. Donc ma conviction, c'est qu'on aura une élection avec trois candidats autour de 20%. Macron, Le Pen, surtout s'il y a Zemmour. En n'oubliant jamais aussi que en 2017, Marine Le Pen, sans Zemmour, commence la campagne à 30 et la finit à 20. Sa capacité de détruire ses propres voix, Dieu merci, est très grande. Et puis, le ou la candidate de droite.
Que restera-t-il de ce quinquennat d'Emmanuel Macron, en dehors de la gestion des crises, quand on regardera ce mandat dans 50 ans, dans 100 ans, qu'est-ce qu'on dira ? Est-ce qu'il a réformé la France ? Quelle est la grande réforme qu'il a faite ?
vous savez, dans 50 ans, dans 100 ans, nous sommes tous des fétus de paille. Hein. Donc, de plus près, je vais dire quelque chose qui va évidemment provoquer le discours que vous avez tenu tout à l'heure. Il a rendu, en fait, la France, comme disent les anglo-saxons, business friendly. C'est-à-dire qu'il a rendu la France ouverte au monde extérieur, que c'est une terre d'accueil, d'investissement comme on n'en a jamais connu. Alors vous allez me dire, c'est donc le président des riches? Non, c'est le président de l'efficacité économique.
J'ai pas dit ça.
Mais à bon tour de vous titiller.
Je vous titille et c'est normal, encore heureux. En revanche, c'est Thomas Piketty peut-être qui répondra à ce que vous dites aujourd'hui, demain, puisqu'il laissera à l'antenne à la même heure. Alain Minc, Ma vie avec Marx, c'est la nouvelle collection de Gallimard. Merci et belle journée à vous.
Merci à vous.
Merci Léa et à tout à l'heure.